Voilà, nous commençons le daf Lamedret Amud Alef, en haut de la page, à la sixième ligne. Amar Rabbi Chama bar Hanina, lo eshir Moshe ela mipsoltam shel luchot. Moshe Rabbeinu ne s'enrichit que de la psolette des luchot. Les luchot étaient faites en sanpirinon. C'est comme une sorte de pierre précieuse. Le Midrash dit que Hachem, il a créé dans le Oel de Moshe Rabbeinu un sanpirinon géant duquel il fallait tailler les luchot. Et donc, c'est l'action d'être possède, c'est taillage, tailler. Et la psolette, c'est les résidus. Et bien, de ces résidus qui n'ont pas servi, ils étaient en trop. Et bien, c'est Moshe Rabbeinu qui les a récupérés. Et il s'est comme ça enrichi chez Neymar. Alors certains, le Marcha dit, c'est pour dire qu'il s'est enrichi non pas de l'enseignement, parce qu'on a dit qu'il a enseigné gratuitement, mais différemment, Hachem lui a octroyé une richesse. Chez Neymar, Pesol Alecha, chez Neluchot Avanim Karishonim. C'est quoi Pesol Alecha? Taille pour toi. Taille les pierres, les luchot, tu vas les tailler à nouveau comme les anciennes. Comme les premières. Pourquoi? Lecha, ça veut dire que la psolette te revient. Psoltan shelecha yehe. Dans l'action d'être possel, c'est-à-dire tailler la pierre, il y a un bénéfice lecha pour toi. C'est ça le sous-entendu de psol lecha. Parce que les luchot sont pour l'âme Israël, elles ne sont pas pour Moshe Rabbeinu. Mais le lecha se rapporte à la psolette. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, lo nitna Torah ela le Moshe. Ulzaro. La Torah n'a été donnée qu'à Moshe à sa descendance. Chez Neymar, Ketov lecha, Pesol lecha. Map soltan shelecha, Ketov lecha, Kitvan shelecha. Il y a aussi écrit Ketov lecha. Et de la même manière que Pesol lecha, ça résonne pour toi, ça t'est dédié exclusivement. Ainsi, le Ktav, l'écriture, c'est-à-dire le contenu de la Torah, t'est dédié lecha à toi, Moshe Rabbeinu. Toi et donc forcément tes héritiers. Mais cependant, Moshe Nahag Batovatain, Moshe Rabbeinu s'est conduit avec générosité, Untana le Israël. Et il l'a redistribué, il l'a partagé, il n'a pas gardé, il a fait partage des connaissances. C'était tellement précieux la Torah, il s'est dit pourquoi ne pas partager? Mais à l'origine, c'était destiné et dédié à Moshe Rabbeinu et sa descendance. Vala Vakatou Omer, c'est sur lui que le Passouk dit. Celui qui a un bon œil, c'est-à-dire qui aime partager avec les autres, alors il sera béni. Metiv Rav Chisda, Rav Chisda est l'object. Hachem m'avait ordonné en ce moment de vous enseigner. Donc qu'est-ce que tu dis que l'enseignement de la Torah, c'est une initiative personnelle de Moshe Rabbeinu, mais à la base, c'est la Torah, c'est dédié à Moshe Rabbeinu. C'est pas vrai. Lui-même, Moshe Rabbeinu, relate comment Hachem avait ordonné en ce moment de vous enseigner. Ça veut dire de partager avec vous. C'était un ordre d'Hachem. C'était donc pas dédié qu'à Moshe Rabbeinu. Réponse, Votit, Siva, ça veut dire... Moi, il m'a ordonné. Quoi? Le contenu de la Torah. Les mitzvot, virgule. Voilà comment faut lire. Et après, Vanilachem, et moi, de ma propre initiative, je vous ai partagé mes connaissances. Ça veut dire, si tu mets une virgule dans le pasouk, non pas Veotitiv Hachem a ordonné à ce moment-là quoi, l'Elamed. Non, ça n'a jamais été un ordre que de vous partager mes connaissances. Otitiv Hachem a ordonné, m'a instruit. Point. Après, moi, Baetaï, l'Elamed Etrem, oui, j'ai eu cette initiative de vous partager mes connaissances. Encore une autre référence délicate que soulève Rav Chisda. Tu vois pas? Encore une fois, ça s'entend dans le passé que c'est Hachem qui m'a ordonné d'être Melamed Otrem. Donc qu'est-ce que tu dis que c'était pour moi? Et de ma bonne volonté, je voulais partager. Réponse idem. Otitziva, point. Hachem m'a instruit, m'a ordonné les commandements. Mais c'était pour moi à l'origine. Vanilachem, et de ma propre initiative, je voulais partager. Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Hashira, alors une fois de plus, vous allez écrire cette shira. Et la suite, ve'la medayet b'nei Israël, pour l'enseigner à b'nei Israël. C'est quoi Shira? C'est Sefer Torah. C'est la mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Donc ça veut dire qu'enseigner la Torah, c'était le devoir de Moshe Rabbeinu. Il faut l'écrire pour pouvoir l'enseigner. Réponse, Hashira l'Echuda. Mais non, la Shira, c'est la Shira de Hazino. Ça se rapporte au passage de Hazino Shamaim, qui est une Shira qui est composée et qui est disposée dans le Sefer Torah à l'image d'une Shira. Dit la Gemara, si c'est que ça, Shira l'Echuda, non, pardon, le mantie li Hashira azot l'Ed, bivne Israël. La Torah dit, Velamedat ben Israël, d'accord, il faudra l'écrire, l'enseigner, pour que ça serve de Edout entre moi et Béné Israël. D'accord ? Et là, si c'était que le passage de la Shira, c'est pas vraiment une Edout. La Edout, c'est l'intégralité de la Torah. C'est ça qui est l'alliance entre Hachem et nous. Et le témoin de cette alliance, c'est l'intégralité de la Torah, c'est pas uniquement le passage de la Shira. Et donc, quand s'écrit Vatakitvou lachem et Hashira, forcément, ça veut dire écrire tout Sefer Torah. Et d'ailleurs, le Rambam, il dit, c'est de là qu'on apprend la mitzvah de l'écriture dans Sefer Torah. Parce que quand la Torah a dit Hashira, on n'a pas le droit d'écrire qu'un passage. Donc, ça veut dire tout le Sefer Torah entier. Mais dans cette Gemara aussi, ça s'entend un peu comme ça, puisque la Gemara dit, ça ne peut pas être que la Shira, le sujet de Vatakitvou lachem et Hashira, puisque ça doit servir de aide. Or, seul ce passage ne suffirait pas. Donc, voilà que toute la Torah devait être écrite pour Velameda et Bnei Israël. Pour que Moshe Rabbeinu l'enseigne à Bnei Israël. Et donc, tu vois pas comment on peut dire que c'est dédié à Moshe Rabbeinu, alors que non, à la base, ça devait être retransmis et partagé. Réponse, Ela Pilpula Be'alma. Ce qu'on a dit ici, que la Torah était dédiée à Moshe Rabbeinu, c'est le pilpoul de la Torah. L'approfondissement, les raisonnements profonds qui permettent de comprendre et d'établir des règles, etc. Ça, c'est ce domaine qui relève des compétences de Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dédié ce pouvoir, cette chokhma, etc. Ça, il aurait pu le garder pour lui. Qu'il nous enseigne des lois et des règles telles qu'elles sont présentées dans le Sefer Torah, c'est une chose. Mais qu'il en fasse des développements, des approfondissements, etc., avec son pilpoul, ça, il aurait pu le garder pour lui et ses descendants. Bien sûr qu'on en a besoin pour chaque génération, mais ce auraient été eux les dépositaires et ce seraient eux qui auraient à chaque génération tranché pour la génération tout entière. Et là, Moshe Rabbeinu a préféré le partager. Et donc, le pilpoul à Torah, ce koar de définir une halakha par le raisonnement et l'approfondissement, etc. Ça, c'est pas donné uniquement à Moshe et sa descendance, désormais, c'est pour tout l'âme Israël. Dans le Roche, c'est précisé que ce qu'on a appelé ici pilpoul, ça s'entend dans le mot kitvou, que dov lecha. C'est bien de ce passage qu'on a appris que c'était dédié à Moshe Rabbeinu initialement. Alors je vous lis dans le Roche, pilpoula be'alma. Havana vecharifut vainu ketavan shelecha. C'est ce qu'on a entendu dans le passage que ketov lecha, comme psolet et leshelcha, les louchot. Alors, le ktav, que veut dire le ktav? On a parlé du pilpoul, mais ça va de pair, dit-il, parce que ki kol hachochma ve'asechel remuzim biktav haTorah betzurot haotiyot. C'est pas détacher tous les beaux pilpoulim qu'un chacham peut établir, c'est pas en marge du texte. On doit pouvoir le rattacher au texte, quelque part, ou par allusion, surat haotiyot, etc. Il y a un principe qui est souvent redit dans les Sfarim, c'est que let milta de loremisa boraita. Il n'y a pas un enseignement qui n'est pas en allusion présent dans la Torah. Même si tu trouves une halakha de la Gemara que Chazal ils ont établi, un chacham te trouvera dans la Torah une allusion, etc. Donc c'est pas détaché du texte, c'est-à-dire toutes les parties très profondes qui sont sous-jacentes au texte, c'est ce qu'on a appelé ici pilpoul. C'était dédié à Moshe Rabbeinu. Il a, de sa bonne volonté, voulu nous le partager. Point. Nouvel enseignement. Marab Yochanan. Et la Kadosh Baruch Hu Mashre Shrinato. Akadosh Baruch Hu ne fait résider sa Shrina. Et la Al-Gibor Ve'ashir Ve'chacham Ve'anav. Que sur un homme qui a les quatre qualités. Il est fort, riche, intelligent, et humble. C'est quasiment tout mal traduit. Anav, humble peut-être. Chacham, ça ne veut pas dire intelligence, ça veut dire chacham de Torah. Chacham en Torah, bien sûr. Et Gibor et Achir. Tiens. Il va falloir comprendre pourquoi il nous faut toutes ces qualités pour avoir le zchout de la révélation divine. Ashrat, Ashrina, ça veut dire Ruach HaKodesh. Comme les Nevim, ils ont Ruach HaKodesh. Ils ont une inspiration divine, ils sont en connexion avec Hachem. Et ça, c'est ce qu'on appelle Ashrat, Ashrina. Moshe Rabbeinu en a fait l'objet, bien sûr. C'est le Adon, l'école à Nevi'im. C'est ce qu'on dit, Kulan mi Moshe. Toutes ces qualités, on les trouve chez Moshe. C'est de lui qu'on apprend que ça en fait une condition. Alors déjà, le Rosh nous dit, En akadosh baruch hu mashre shrina to bikviut. Vraisemblablement, il voulait remédier à un problème. Et le Yavetz, si on va dans les Agat Yavetz, il nous éclaire. Parce qu'on dit, par exemple, que depuis que Nechira Bet Amigdash, alors la névoie a été donnée au Shotim. Alors il dit non, c'est pas névoie, c'est pas Ashrat Ashrina. Ça veut dire que, quand on le révèle des fois des choses de l'avenir, c'est tout. Mais c'est sans, c'est pas vraiment Ashrat Ashrina. C'est pas vraiment la névoie comme le Ruach HaKodesh dont on parle. Ou bien il dit que plutôt c'était pour exclure ce qu'on a trouvé dans l'histoire, que des gens qui n'avaient pas toutes ces qualités ont eu. Bénéficier de Ashrat Ashrina, comme Bilham, comme Hagar, que le malheur se révèle à elle, etc. C'est Ashrat Ashrina, c'est enfin, ça veut dire connexion avec, avec Hachem qui communique. Et donc, c'est pourquoi le Rosh nous a tout de suite remis les choses dans leur contexte. On parle ici uniquement de Ashrat Ashrina régulière, Bikviut, comme Moshe Rabbeinu. À chaque fois qu'il devait consulter la Shrina, il avait une entrée directe, il pouvait communiquer avec Hachem. Maintenant, d'autres Nevim, ils n'étaient pas autant que lui, mais ils avaient quand même, régulièrement, ils avaient un échange avec la Shrina. Cette Ma'ala de Ruach HaKodesh, régulièrement, ça requiert ces quatre qualités. Voilà le sens de cet enseignement. Lesquelles? Alors, la qualité de Gibor, Achir. Alors, Chacham ve'anav, ce n'est pas une question. Anav, c'est une très grande qualité, et peut-être qu'on conçoit aisément que c'est une condition, parce que sans la Anava, tu es Toevat Hashem. Si tu es orgueilleux, tu es Toevat Hashem. Comment tu veux te mettre en connexion avec Hashem si tu repousses Hashem par ton orgueil? Donc d'accord, la Anava, c'est une condition. Et aussi, pour plein d'autres raisons, on peut rajouter, j'ai pas le temps maintenant, mais en tout cas, la Anava, ça s'entend aisément. Chacham, c'est Chochma de Torah, qui est Badaï. Tu veux te mettre en connexion avec Hashem, il faut être dans l'esprit de la Torah pour avoir comme le langage commun avec la Shrina qui vient Chol. Ça s'entend, évidemment. Achir et Gibor. Qu'est-ce que ça a à voir qu'on est riche ou on est fort? Pourquoi il faudrait avoir ces qualités? C'est intéressant, ils ont ramené au nom du Shmoneh Prakim la Rambam, que ici on n'entend pas au sens direct du terme, mais plutôt, comme Chachamim nous l'ont défini, il ne faut pas voir le Larousse, il faut voir la Mishnah Avot. Ezeo Gibor Akovesh et Yitzro. Ezeo Achir Asamear Bechelko. Très mignon. Mais le Ran, il demande en Drashot Aran, comment on va traduire ça comme ça? Puisque la Gemara, elle fait des recherches pour définir et prouver que oui, Moshe Rabbeinu était Givor. On parle de force physique. Alors, comment le Rambam, ça lui a échappé, ça? C'est pas possible. Même que je vais me permettre peut-être, un compromis. Bien sûr qu'au sens premier du terme, ça veut dire la force physique et la richesse matérielle. Mais le Rambam souligne à travers son commentaire que la force qui est Gibor Kovesh et Yitzro, c'est plus chez quelqu'un qui a aussi de la poigne, qui a la force dans les bras. Si malgré sa force, il sait se retenir, se contenir, maîtriser sa force physique et ne savoir l'utiliser qu'à bon escient intelligemment, ça c'est une vraie gvoura de Gibor Kovesh et Yitzro. C'est quand il n'a rien dans les bras, alors il est mignon, il est gentil avec tout le monde, parce qu'il n'a pas de répondant, le gars, il ne sait pas se battre. C'est rien du tout. C'est pas une gvoura. La même chose pour la richesse. Quelqu'un qui est pauvre, ou il n'a pas beaucoup, il est mesamer bechelko. Parce que Chachamim nous ont dit, yesh lo mané, rotze mané, yesh lo mataim, rotze mataim, plus tu as, plus tu veux. Donc si tu as que de quoi vivre, tout juste, tu ne fais pas des fabulations, j'aimerais, je voudrais être le milliardaire. De nos jours, il y a des fous qui arrivent à... Mais humainement, c'est pas comme ça. Un humain, il fonctionne pas comme ça. Il rêve avoir un peu plus, d'accord. Mais un riche, il rêve avoir beaucoup plus. Parce que c'est à hauteur de ce qu'il a. Et on verra qu'un riche, il court alors qu'il a de quoi vivre pour... Et ça veut dire que son besoin et son envie arrive au presque, c'est comme un besoin qui s'est créé. Il ne peut pas s'en passer, il doit encore. Et si quelqu'un, il est achiré malgré tout, il est sa mère Bechelko, c'est plus un exploit que quelqu'un qui vit à un niveau basique, très modeste, et il est content avec ce qu'il a. D'accord ? Et donc là, la malade de Achir au sens de la Mishnah Ezeo Achir à sa mère Bechelko, c'est une vraie madriga de Achirut au sens de la Mishnah. Mais la qualité que Chazal nous souligne, dit le Rambam, ce sera la qualité morale de Gibor Kovesh et Yitzro, Achir sa mère Bechelko. Mais ça passe, c'est pas que ça passe, il y a un préalable. Je peux définir que c'est bien le cas chez cette personne à un très haut niveau, que si aussi il a la Gvoura, il sait l'utiliser, s'il a la Hocher, il sait ne pas tomber dans le faible de toujours plus d'argent. Ça, c'est ce que je voulais rajouter. Maintenant, la Gemara continue et elle développe ces quatre qualités d'où on sait qu'il les a. Givor dirtiv, vaifros, et à Oel à la Mishkan. C'est Moshe Rabbeinu qui a tendu les bâches du Oel au-dessus du Mishkan, via Marmar. Moshe Rabbeinu, Perasso, le maître a dit, c'est une source où on voit que c'est qui Vaifros, c'est Moshe Rabbeinu. Vektiv eseramot orecha karesh. Or, la Torah nous donne les dimensions des kerachim du Mishkan. Vous avez une hauteur de 10 amot. 10 amot, c'est 5 mètres à peu près. C'est que Moshe Rabbeinu, il était géant, forcément. Donc voilà, Gibor. Dit la Gemara Emma de Harir Katin. Peut-être c'est vrai, il était haut pour y arriver là-haut et étendre, c'est vrai. Mais peut-être qu'il était mince et pas très baraqué. Et là, Minaden Kera, seulement si je l'entends, c'est de cet autre pasouk. Dirtiv, Vait pos bishne aluchot vashlichem meal shete yadai vashaberem. J'ai saisi les deux luchot et je les ai jetés de mes mains et je les ai brisés. Donc il a dû les lancer certainement fort. Et. Ou bien peut-être le fait de les tenir. Et voilà que forcément, c'est une très grande force, la preuve, Vétania. Une braïta nous enseigne, je rappelle que les luchot étaient comme la pierre précieuse qu'on appelle Stan Pirinon, et donc, je crois que c'est une très grande densité, il me semble, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est comme de la pierre. Et à luchot, voici les dimensions, dit la braïta. Orkan shisha verorban shisha, longueur et largeur, c'est 6 tfachim. Ovian, leur épaisseur, 3 tfachim. Alors, va me lever un pavé de 60 par 60 cm sur 30 en pierre massive, plus un deuxième, et chacun en une main, etc. Donc, vas-y, donc c'est forcément qu'il avait une force. Ensuite, Achir. Achir, où on a trouvé ? Psolecha, psoltan shelechaye, comme on l'a vu plus haut. La psolette du Sanpirinon des tables revient à Moshe Rabbeinu, et de ça il s'est enrichi. Chacham Rabbi Shmuel d'Amrei Tervayu. Chamishim Sha'arei Bina Nivreu Ba'olam Vekulan Nitanu LeMoshe. Chaser Achat. Hachem, il a créé pour le Olam 50 niveaux de sagesse, 50, on va dire, niveaux de sagesse, et tous ont été attribués à Moshe Rabbeinu, sauf un. Shenema Vatechasereu Me'at Melokim. Tu l'as fait manquer un petit peu par rapport à Elokim. Alors certains disent Elohim ici, ça veut dire les anges. Et donc Moshe Rabbeinu avec ses 49 sur 50, Sha'arei Chochma, il est un petit peu en dessous des anges. Ou bien il y en a qui disent par rapport à Hachem lui-même, mais je conçois par rapport à Hachem, non pas dans sa sagesse globale. Parce que quand on dit qu'il y a eu les Chamishim Sha'arei Chochma, c'est par rapport au monde et à ce qui doit se dérouler, se faire et se vivre sur Terre. Alors, il y a les 50 Hamishim, Sha'arei Chochma, d'accord ? Relatif au monde. Dans ce cadre-là, Hachem, il avait les 50, Moshe 49. Donc, Moshe Rabbeinu, il est un peu Me'at Melokim, un peu moins que Hachem. Mais maintenant, la Chochma globale d'Hachem, elle est sans fin. Je pense qu'il faut rajouter ça. C'est par rapport au Pirouche de Rashi que je pense qu'il faut rajouter ça. Et ensuite, Anna, d'où on trouve, dirtiv, Vaïch Moshe, Anna, Meot, c'est Hachem qui témoigne dans la Torah. Il y en a qui disent que Gibor, Achir, Chacham et Anna, je crois me rappeler du Maharsha, je ne l'ai pas retrouvé ici, mais peut-être c'est ailleurs, que malgré que Gibor et Achir et Chacham, il est quand même Anna. Ça veut dire que c'est ça la grandeur, et c'est ça La vraie anava, c'est pas quelqu'un, il a rien à faire valoir. Ni il est fort, ni il est riche, ni il est intelligent, ni rien. Et il fait le anav. C'est vrai, on peut, faux. Mais la vraie anava, c'est quand tu as plein de choses à faire valoir et quand même, tu fais profil bas. Donc, d'après cette explication, en soi, Gibor et Asher, ce n'est pas forcément des qualités. C'est juste pour faire valoir la anava, qu'elle est vraiment une. Ensuite, Amar Rabbi Yochanan, Kol anevim Ashirim ayu menalan, mi Moshe ou mi Shemuel, mi Amos ou mi Yonah. De ces quatre-là, on a vu qu'ils étaient riches. Il y a l'épreuve tout de suite qui arrive. Ça nous donne à penser qu'il en est de même pour tous les Nevi'im. Alors, Moshe dirtiv lo chamor echad mem nasati. Je n'ai pas pris un seul âne de eux. Ibelo agra. Est-ce que c'était sans paiement? Le afouke mandeshakal belo agra. Quoi, Moshe Rabbeinu voulait s'exclure de ceux qui se permettent de prendre un âne sans payer? C'est sûr que c'est pas ça qu'il voulait dire. Je ne suis pas capable de soi. Je n'ai pas fait ça. Ça n'importe qui. Et là, d'afilou beagra, c'est pour dire, je n'aurais jamais pris un âne, même moyennant paiement. Donc, je n'ai jamais abusé de leur gentillesse, même pas quand j'avais besoin, peut-être pour mes déplacements. J'ai jamais demandé un service, même en payant. Dilma mishum daniava. Tu l'as compris. Mais peut-être que s'il n'a pas fait ça, c'est pas parce qu'il était riche. Au contraire, peut-être parce qu'il était ani. Et le ani, ben, il n'a pas grand-chose à déplacer. Et c'est pourquoi il n'avait pas besoin d'âme. Et là, min pesol lecha, psol tanye shelcha. Voilà. C'est de la même source qu'on a vu deux fois déjà dans cette page, que pesol lecha, voilà, avec les psolettes, des louchotes, Moshe Rabbeinu s'est enrichi. Shmuel, d'où on sait qu'il était riche, dirtiv. Hineni anubi, demande des comptes au Bnei Israël. Répondez-moi donc, Neged Hashem ve Neged Meshicho, devant Hashem et son Mashiach, ça veut dire certainement le roi qui est loin. Et Chormi, donc désigné par Hashem, et Chormi la Karti, Vechamor mi la Karti, Ibechinam. Alors voilà, le chor de qui j'ai pris ou l'âne de qui j'ai pris. C'est-à-dire que est-ce que je me suis permis d'abuser de votre, sur votre compte. Alors une fois de plus, on va analyser. Est-ce que c'est Bechinam? Là, Foukeman de Chakal Bechinam. Est-ce que Shmuel, il voulait dire, moi, je n'ai pas osé de faire le forcené de vous prendre gratuitement un bien pour mon profit personnel? C'est sûr que ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Et là, des Filou Bisra, il voulait dire, même en vous payant, je ne me suis jamais permis de vous demander un service. Dilma, alors, donc voilà, de là, on voit que, ben, il n'a jamais eu besoin de profiter des autres, c'est qu'il était riche, dit l'Agmara, non? Dilma de Aniava, peut-être une fois de plus, il était pauvre. Et quand quelqu'un est pauvre, il n'a pas quoi transporter, il n'a pas besoin d'âne. Un pauvre, il n'a pas besoin de voiture, il n'a rien à transporter. Et là, Meachin, alors de là, je n'ai pas de preuve, c'est d'ailleurs. Dans notre pasouk, Utshuvato Aramata, Kisham Beto. Ce pasouk, il vient après le récit des déplacements de Shmuel, qui passait d'un endroit à l'autre, il était chauffé d'un endroit à l'autre, et on dit qu'après, littéralement, son point de retour, c'est à Ramata, l'endroit à Ramata, là où il vivait, Kisham Beto. C'est là-bas où il avait sa demeure, et donc, et en fin de parcours, c'est là où il revenait. Ça, c'est littéralement. Mais l'allusion ici qu'on veut entendre, Amar Rava, Rava nous a dit, Kol Makom Shalar Beto Imo. En réalité, ça veut dire que sa maison, elle était là-bas, avec lui, dans tous ses déplacements. Que veut dire sa maison? Pas les murs. Mais il emmenait, il transportait avec lui tous ses effets personnels utiles pour ses déplacements. Et non pas comme un voyageur qui a une petite valisette. Lui, il avait tout ce qu'il avait besoin pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Et donc, sous-entendu qu'il était riche, il pouvait transporter une caravane avec tout ce qu'il a besoin, entre guillemets. Ça s'appelle qu'il était riche. Autrement, ça ne pouvait pas se faire. Amar Rava Gadol, Mashneemar, Bishmuel, Yotel, Mashneemar, Bemoshe. Ce qui est dit à propos de Shmuel ici dans ce passage, c'est plus que ce qui est dit pour Moshe. De ilu Moshe Rabbeinu k'tiv lo chamor echad me'em nasati. De afilu bischar. C'est vrai, ça veut dire même payant, je ne vous ai pas sollicité pour vous demander un service pour utiliser votre âne. Ve'ilu gabe Shmuel afilu beratzon lo sachar. Et alors que Shmuel, même beratzon, c'est-à-dire même si d'eux-mêmes, ils étaient partants pour lui, mettre à disposition un âne pour lequel il aurait payé, même ça, il n'a pas consenti. Dirtiv, Vayamru, Loa, Shaktanu, Veloratotanu, Vegomer. Comment ils ont répondu? Ils ont répondu, justement, quand il leur demandait des comptes. Est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher? Est-ce que j'ai abusé de vous? Est-ce que je vous ai pris un âne, moi, etc. Et ils ont répondu comment? Ils ont dit, Loa, Shaktanu, Veloratotanu. Tu nous as rien spolié, entre guillemets. Veloratotanu, ça veut dire, même Miratson, tu n'as jamais accepté un service de notre part. Si on voulait te mettre à disposition un âne, même en nous payant ce service, et même de notre propre gré qu'on t'aurait fait l'offre, même ça, t'as décliné. Donc ça, c'est plus que ce qu'on a vu à propos de Moshe Rabbeinu. Bon. Amos, c'est le troisième. On a annoncé qu'il était riche, ce Navi. Dirtiv, Vayan Amos, Vayomer El Amatsia, Lo Navi Anochi, je ne suis pas un de ces faux Neviim, c'est ça le contexte là-bas, Velo Ben El Navi Anochi, ni un fils de ces faux Neviim, Kiboker Anochi, ou Boles Shikimim. Boker Anochi, c'est Milachon Bakar, ça veut dire j'ai du bétail. Et Boles Shikimim, c'est quelqu'un qui sélectionne les Shikimim, c'est un arbre de valeur, c'est le sycomore, je crois savoir. Et ceux qui en avaient des exploitations, c'était une richesse. Ils devaient savoir sélectionner lequel est au bon moment, est à son stade de développement où il faut tronçonner. C'est un arbre qu'on tronçonnait, il repartait, etc. Il y avait toute une stratégie pour exploiter au mieux ce bois. Et donc, ça veut dire qu'il avait des richesses. C'est ça qui est mentionné ici. Kedem et Targem, Rav Yosef, Are Mare Giteana, Veshik Mimli Bishfilata. Rav Yosef, il a traduit ce pasouk, c'est le Targum. Voici que je suis propriétaire de Guité. Alors d'habitude, Guité, c'est des pressoirs. Mais je ne sais pas comment ça rentre dans le mot Boker. Ça, je n'ai pas trouvé pour l'instant. Ce que je vous ai dit, Boker, Minachon, Bakar, c'est Rashi sur le texte. Et ensuite, Shikmim, je possède des exploitations de Sycomore, mais je fais la tâche dans le contrebas, dans la vallée. Et donc voilà, on voit qu'il avait une richesse. Yona Dirtiv. Où on a trouvé que Yona avait une richesse, Dirtiv, Vaiten Sechara, Vayeredba. Il en a payé le prix et il est descendu dans le bateau. Rabbi Yochanan nous a dit Shinatan Strara Shel Sfina Kula. Pour que Yona se fasse accepter dans le bateau, il n'a pas payé son ticket. Il a racheté, il a payé pour tout le prix du bateau. Amarumanus, Strara Shel Sfina Avia, Arbat Alafim Vinredava. Et le Chacham Rabbi Rumanus nous dit que ça s'accumulait à un prix de 4000 dinars zahav. Et d'où il sait ça, je n'ai pas vu, mais il doit y avoir une allusion peut-être dans le texte ou je ne sais quoi. En tout cas, il nous a. Ou bien que c'est une massorette de Chazal. Souvent, Chazal, ils ont reçu de génération en génération certaines précisions. Et donc voilà. Vama Rabbi Yochanan, Batechila ya Moshe la met Torah ou Meshakecha. Moshe Rabbeinu, au début, il étudiait la Torah. On sait qu'il est monté 40 ans pour apprendre la Torah. Il l'étudiait, mais il l'oubliait. C'était au-dessus de ses compétences, ses capacités. Avec tout l'effort, on sait qu'il a mis toute son âme dans ça. Et comme c'est décrit dans la Torah. Ah, Tchenit Nalo Bematana, jusqu'à que Hachem a fini par lui donner en cadeau. Ça veut dire qu'il a pu maîtriser la Torah que parce que Hachem, miraculeusement, a fait que les choses se fixent en lui. C'est le cadeau. Chez Neymar, comme il est dit, Vaiten el Moshe, Kechaloto, Leda Berito. Hachem lui a donné, après qu'il a terminé d'échanger avec Moshe Rabbeinu, il lui a fait donation de tout ce patrimoine qu'il lui avait appris. Ça, c'est une lecture. Mais dans Rashi, sur ce pasouk, Rashi nous dit que Kechalato. Kechaloto, ça se dit Kechalato, comme sa kala, comme sa mariée. Comme une mariée, tu ne l'as pas payée, c'est comme un cadeau. Alors Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu la Torah, cadeau comme une kala. Mais qu'on dise comme ci ou comme ça, la leçon qu'on apprend ici, c'est que même si des fois Hachem, il peut faire cadeau, entre guillemets, du savoir de Torah, c'est qu'une fois que l'homme aura fait tous les efforts requis, il a fait plus que tout ce qu'il pouvait, alors Hachem, il fera que il peut atteindre même des capacités au-dessus des siennes. Comme Moshe Rabbeinu, emmagasiner tout ça, c'était impossible. C'est tellement immense, immense la Torah, et en 40 jours. Et s'il y est arrivé, c'est parce qu'Hachem, cadeau, mais parce que lui, il a fait tout l'effort. Et donc, on fait tout l'effort, Hachem nous aide. Mishnah. Nous sommes encore dans le sujet de Mudarana Mechavero. Reuven, il a fait un vœu par lequel il interdit à Shimon de tirer profit de lui. Donc Shimon, il est banni, ne peut plus profiter de Reuven. Eh bien, ce qu'il peut, il peut quand même nourrir sa femme et ses enfants. Reuven peut donner de l'argent, enfin de la nourriture à la femme et à l'enfant du Mudarana. Bien que le père de famille doit les nourrir. Certains disent c'est en fait le mari doit nourrir sa femme. Les enfants, c'est moins évident. C'est vrai qu'ultérieurement, on voit dans la Gemara Ktuvot qu'il y avait une takana qu'un père doit nourrir les jeunes enfants. Mais peut-être que la Mishnah n'en fait pas référence, c'était pas encore établi et tout ça. Donc ça, c'est en détail, il faut voir dans les Mefarshim. Mais en tout cas, pour ce qui est de Ishto, il y a clairement une obligation. Ça fait partie du contrat de mariage qu'un mari nourrit sa femme. Et malgré que l'homme, Mudarana, ne devait pas, c'était à lui de nourrir sa femme, l'autre, le Madir, peut venir la nourrir. On ne dit pas qu'il est, il est Mehaneoto. Ça renvoie directement à la Machloket qu'on a vue entre Hanan et Chachamim. Souvenons-nous, si quelqu'un, il est parti Bimdina Tayam, il a laissé sa femme comme ça, sans pension alimentaire, il n'a pas laissé d'argent ni rien. Et quelqu'un d'autre, il vient, il nourrit sa femme, mais pas en cadeau. Il le fait pour avancer l'argent au mari qui n'est pas là, mais il compte bien lui réclamer quand il sera de retour. Est-ce qu'il peut lui dresser la facture ou non? Hanan, il dit non, et Bnei Kohanim Gdolim disait oui. Ça veut dire, ils ont un débat, est-ce que ça s'appelle qu'en donnant à la femme, c'est comme si on a donné au mari? Il a profité. Je rappelle, il y a des principes clairement établis. Il y a un premier principe, je descends dans le champ de quelqu'un, je fais des travaux, j'ai amélioré cette terre. Où je lui refais sa maison. Il était en vacances, je lui refais sa maison. Ah, la maison toute belle, il revient. Paye. Est-ce qu'il doit me payer? Il doit payer. Alors, les modalités, je ne rentre pas dans ce détail, il y a des précisions, mais en tout cas, il doit payer. Tu ne peux pas repartir et profiter sans compensation. Par contre, s'il y avait mon troupeau et il était menacé par un lion, quelqu'un, il vient, il dissuade le lion. Il a sauvé mon troupeau. Là, on est d'accord. On n'a pas besoin de payer. Mavria Khari, j'ai écarté une menace, un tracas, mais le bétail, c'est le même, je le possédais, je l'ai, bravo, merci, c'est gentil de ta part, mais je ne te dois rien, parce que tu ne m'as pas mis un euro de plus dans la poche. Maintenant, il y a des cas comme intermédiaire, c'est le cas de celui qui vient nourrir la femme de l'autre en son absence. Est-ce que je dis, puisque le mari devait la nourrir et on a payé à la place du mari, en espérant une contrepartie, est-ce que c'est justifié de réclamer au mari ou non? On va dire, non, le mari, il n'a pas reçu un euro. Ça a fini dans le ventre de sa femme. D'accord? C'est comme Avriah Hari, tu m'as enlevé un tracas. Il y aurait un créancier qui m'aurait harcelé, qui m'aurait talonné. Elle aurait envoyé à Métrousse le Beddin pour me demander une pension alimentaire parce qu'elle est de droit, tout ce que tu veux. C'est vrai, tu m'as enlevé une menace, un tracas. Mais pour autant, tu ne m'as rien rajouté. Je ne suis pas né. Et donc, de la même manière que tu ne veux pas me réclamer de l'argent, ce n'est pas reconnu comme un profit pour le mari que sa femme a été nourrie en son absence. Et à ce titre, on comprend bien la Mishnah. On peut nourrir, le Madir peut nourrir la femme du Moudar. Exactement, d'après Hanan, ça s'entend tout de suite, direct. Mais d'après Rahamim, que on peut réclamer l'argent au mari. C'est comme s'il a gagné. Et dans ce cas-là, c'est comparé d'après Chachamim au cas de la maison qu'on a refait. Et t'as gagné que ta femme, elle a eu à manger pendant ce temps-là. Tu dois me rembourser. Si tu dois me rembourser, comment en tant que Madir, je peux offrir cette faveur au Moudar? Quand je paye à ta femme, c'est comme si je te paye à toi parce que c'est réclamable, c'est encaissable. J'avais le droit de le réclamer. Si je ne l'ai pas réclamé, c'est à toi que j'ai fait une faveur. Et donc ça devrait être assourd. Et alors est-ce que notre Mishnah, elle est que d'après Hanan ou même d'après Chachamim? Il y a des Rishonim qui arrivent à interpréter notre Mishnah même selon Chachamim. Alors il y a ici une explication dans le Ran et dans Tosfot, c'est que ici il n'a pas fait en tant que avance en faveur du mari. J'avance l'argent, mais c'est-à-dire il l'a pas fait vis-à-vis du mari. Il l'a fait en tant que cadeau. S'il l'a fait vis-à-vis du mari, pourrait même réclamer de l'argent, comme on a dit avec la Machloket Hanan et Rabbanan, d'accord. Mais là, il l'a fait bénévole, gratuit, gracieusement. Il veut nourrir la femme. Alors là, c'est bon. Ah, ça réjouit le mari qui fait une belle économie. Au lieu de nourrir sa femme, il fait des économies pendant ce temps-là. Ouais, mais ça, c'est une ana'a par ricochet. Ça compte pas dans le sujet de Issur ana'a, ça compte pas. Voilà comment le Ran explique. Et on trouve aussi cette même explication dans Tosfot. D'autres vont dire qu'en réalité, ici, les maisonnotes dont on parle, c'est des maisonnotes excédentaires. Elle est nourrie par son mari normalement, les enfants aussi. Mais quelqu'un, il vient et ramène les damiels, les petits compléments en plus. Ouais. Alors, c'est permis? Oui, parce que le mari, il ne devait pas ça à sa femme nécessairement. Donc, ce n'est pas lui le nez aîné. Ça lui fait plaisir, ok, ça c'est une nana, pas ricochet, ce n'est pas grave. Deux explications qu'on trouve dans Tosfot. La première est aussi dans le Ran. Prenons la suite de la Mishnah. Velo yazun et behemto, behemtemea, behemteora. Par contre, s'il veut nourrir l'animal de l'autre, le moudar, c'est assour. Qu'elle soit une béma pure ou impure, c'est-à-dire kshera ou pas kasher, il ne peut pas. Rabbi Eliezer Omer zanata temea veno zanata teora. Rabbi Eliezer dit on peut nourrir la temea, mais pas la teora. Alors pourquoi ne faut pas nourrir la béma de l'autre? Parce qu'elle va être améliorée. Elle a une plus-value, cette béma. Si elle est plus grasse, elle coûte plus cher. Donc c'est comme si je viens et je retape ta maison. C'est exactement la même chose. C'est une ana que tu as. D'ailleurs, je peux même te réclamer une contrepartie normalement. Donc ça, c'est une ana concrète, c'est assour. Peu importe qu'elle est kshera ou tmea. Mais Rabbi Eliezer dit non. Il y a une différence entre une béma kasher ou pas kasher. C'est ça, tmea et non. Alors il nous explique. Il va s'expliquer. Les chachamim me demandent des explications déjà. Amroulo, les chachamim ont dit ma ben tmea le Torah. Quelle différence entre kshera ou pas? Amalein shatora nafsha la shamaim vegufa shelo. La béma teora. Nafsha, c'est-à-dire quand elle a son âme en elle, quand elle est vivante, c'est pour le ciel. C'est-à-dire je ne peux pas en profiter directement. Du fait qu'elle a été engraissée, j'en tire aucun profit. D'accord? Tant qu'elle est vivante. C'est à quel stade qu'on profite? C'est une fois qu'on doit l'abattre. Ah, il y a de la viande grasse, etc. Gouffre, hein, chez l'eau. Le gouffre de l'animal, c'est-à-dire quand il n'y a plus que le gouffre, une fois qu'on l'a abattu, oui, ça lui fait un bénéfice. C'est qu'il a de la bonne viande grasse. Et c'est pourquoi on ne peut pas nourrir une béma kshera. Ça, je veux bien dire Rabbi Eliezer. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas. Pardon. Mais temea nafsha vegufa la shamaim, la béma de son vivant ou morte, abattue, c'est pour le ciel, ça veut dire je ne peux pas en profiter. Moi, je ne peux pas manger la béma, même une fois qu'elle est abattue, ce n'est pas kasher. La shamaim ici veut dire j'en suis privé. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je ne peux pas la manger. Et donc, du moment que je ne peux pas la manger, je ne vais pas profiter du fait qu'elle a été engraissée. Ta nourriture a contribué à l'engraissement de l'animal. C'est une valeur ajoutée pour une béma kshera, parce que c'est moi qui la mange. C'est ça, la gouffre de l'animal me revient après shrita, c'est ça gouffre, sans le nefesh. Après abattage, j'en profite. Tandis que l'animal pas kasher, j'en profite pas. Mroulo, ils lui ont dit les rachamim. Afatemea nafsha la shamaim. Même la bématmea nafsha la shamaim vegufa shelo. Tu as raison que quand elle est vivante, tu ne profites pas de l'engraissement. Mais une fois abattue, oui, pourquoi? Shemirse areu mochalov de kochavim. Parce que s'il veut, il la vend au goy. Il peut la vendre ou vivante pour l'abattage ou même déjà mort. Omachila le klavim, ou la donne à manger à ses chiens, ce qui est permis. Et donc, une nevela, on peut donner aux chiens. Ou bien l'animal, je le vends. Du moment que l'animal, il est plus gras, tôt ou tard, j'en aurai un bénéfice, même si l'animal n'est pas kasher. Ça ne finit pas dans mon assiette, je veux bien. Mais je vais le monnayer, je vais le vendre. Je vends de la viande plus grasse, c'est plus cher. Je donne à mes chiens, il y a plus à manger. Et donc, je suis gagnant si l'autre, il nourrit mon animal. Le Ran précise, on parle de suralimentation, qui pourrait servir à engraisser l'animal. C'est là où il y a cette problématique. Parce que lui, il considère que la nourriture de base, ça peut être que interdit. C'est comme si je vous dis, je paye l'essence pour ta voiture. T'es moudarana, je mets juste l'essence dans ta voiture. Ben, je donne le carburant à l'animal pour qu'il puisse travailler. C'est sûr que c'est un profit. D'accord? Donc ça devrait être interdit. Comment on va permettre... d'après Rabbi Eliezer, par rapport à l'animal tamé, parce que c'est pas moi qui le mange. Oui, mais avant de le manger, là, je profite qu'il peut travailler, il a les forces de travailler grâce à la nourriture de l'autre. Si j'ai bien compris, c'est pourquoi le Ran, il exclut cette option et qu'il comprend On parle ici de nourriture excédentaire. L'animal, il est pris en charge par le propriétaire. Il n'y a pas de problème. Mais moi, le madir, je viens, j'en rajoute. Et le but, c'est quoi? En matière d'activité, au contraire, ça n'aide pas l'animal. Un animal qui est gâté, il travaille moins bien. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il est gagnant. Mais il serait peut-être gagnant parce que l'animal est engraissé. Engraissé, c'est une valeur ajoutée. Et là, il y a Machloked, Rabbi Eliezer, Ramim. Est-ce qu'on le considère ou non, ce bénéfice? Ramim dit, bien sûr, ça se vend plus cher. Si tu veux le vendre à un goy, ou tu veux donner à manger à ton chien. Et Rabbi Eliezer dit, non. Du moment que ça ne finit pas dans mon assiette, je ne vois pas en quoi c'est une valeur ajoutée. Ah oui, mais finalement, je le vendrai plus cher au goy. Alors ça, c'est une nana indirecte. Comme ça, le Rabbi Eliezer, je crois, si j'ai bien compris, il considère. C'est pourquoi ce n'est pas sourd. Maintenant, la Gemara. Amara Mitzrak bar Chanina Maravuna. Amudarana Mechavero Mutar le Asilo Bito. Celui qui est Mudarana Mechavero. Donc, André Ouven et Shimon, il y a une brouille, disons. Un, il a interdit l'autre de tout profit par un vœu. Et malgré tout, il peut lui marier sa fille. Habeba Rabizera. Rabizera s'interroge sur ce sujet, sur cet enseignement. Bema Yaskinan, de quoi on parle précisément? Parce que quand on dit Amudarana Mechavero, ça veut dire qu'entre deux personnes, il y a un vœu qui est contraignant, mais on ne sait pas forcément dans quel sens. D'accord? Il y a le madir, il y a le moudar. Le madir, c'est celui qui a émis le vœu. Mais que quoi? Quel est l'objet du vœu? Que l'autre ne profite pas de moi ou que moi, je ne profite pas de lui. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on doit définir de quel sujet il s'agit. Rabbi Zera se penche sur ça et demande de Mayaskinan. Il est ma bégénir se'avi kala. Si c'est le potentiel beau-père qui a fait un vœu contre le potentiel gendre en disant Rouven Yadia Shimon, toi tu profiteras pas de tout ce que j'ai. J'ai un vœu par lequel je t'interdis tout profit en provenance de moi. Et là tu dis qu'il peut lui marier sa fille, mais Arémosar lo chiffra les chaméchants, c'est comme s'il lui met à disposition une servante, entre guillemets, une épouse, fait tous les services. Elle va cuisiner, elle va chapeauter la maison, etc. Et donc, c'est une nana. S'il lui marie sa fille, ça devrait être assourd. Et là, Benir Sechatan Asourin à la Via Kala. Il faut comprendre que le sujet, c'est dans l'autre sens. Que par un vœu, le beau-père est interdit de profit provenant du Khatan. Et là, tu dis que donc, le beau-père peut lui marier sa fille. Et c'est quoi le chidouche? Ben malgré que sa fille va profiter chez le Khatan, parce que le Khatan aura l'obligation de la nourrir si c'est son épouse. Et donc c'est la fille du beau-père qui mange ce que le Khatan lui offre. Mais est-ce que c'est comme si le beau-père il a profité et qu'à ce titre ce serait assourd? Non, ce serait permis, dit la Gemara. Mais il n'y a rien à redire, c'est évident. Gdola mizu amru. Plus que ça, ils ont dit nos maîtres dans la Mishnah. Zanet ishto vet banav. On a déjà vu dans la Mishnah qu'il y a moyen, il s'est permis de nourrir la femme du Moudarana. Ben, c'est ce qui se passe. Le Moudar, c'est qui? C'est le beau-père. Il ne doit pas profiter du gendre. Eh bien, le gendre peut donner de la nourriture aux enfants du beau-père. Et a fortiori, si c'est un des enfants avec qui il s'est marié. Donc, c'est évident, qu'est-ce qu'il m'a appris? Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qu'il va nous dire, le Amora, puisqu'on l'entend de la Mishnah. Donc, quel est le sujet de Rav Yitzhak Bar Hanania? C'est ce que demande Rabbi Zera. Dans un sens, ça ne marche pas. Dans l'autre, c'est inutile de dire, on le voit dans la Mishnah aisément. Alors, la conclusion. Ve'atamrat mutar le'asil obito. Tu as besoin de me dire ça. Réponse. Le'olam shenir se'avi kala asurin ala khatam. Revenons à la première option. C'est ça qu'il faut entendre et retenir. Le beau-père, il s'est interdit auprès du khatam. Tu ne profiteras pas de moi. Donc, est-ce qu'il peut maintenant lui marier sa fille? Oui. Ah, mais c'est comme s'il lui met à disposition une servante? Réponse ou bebito bogeret ou midata. On parle ici de sa fille qui est majeure. Elle a 12 ans et demi. Et donc, c'est de son propre chef qu'elle se marie avec. Ça veut dire, pourquoi on avait un problème dans ce cas? Parce qu'on croyait que c'est une fille Ktana ou Nahara qui lui marie. Or, le père, c'est lui qui marie sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. 12 ans, 12 ans et demi. C'est lui qui reçoit le kiddushin, c'est lui qui décide pour elle et c'est lui qui opère les kiddushin, reçoit l'argent des kiddushin. Et dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il lui met à disposition une chifra, entre guillemets. C'était le problème. Némanan répond que non, notre propos, c'était une boguerette. Une boguerette, elle est libre de ses choix, c'est elle qui décide, elle se marie, c'est tout, de son propre chef. Même si le père elle a dit, bon d'accord, je te permets de te marier avec un tel, c'est pas ça qui valide le mariage. Si elle veut, elle reçoit les kiddushin, elle est mariée, même que le père ne voulait pas. Et par conséquent, c'est pourquoi c'est permis. Maintenant, on a rajouté un petit mot, midata. Alors, le Rambam donne une explication, midata, ça veut dire en tant que raison. La raison pourquoi c'est permis, parce que ça, c'est son initiative personnelle. C'est pas le père qui lui a accordé une faveur, je te marie ma fille. Il n'a pas son mot à dire, le père. Il n'a plus de droit sur sa fille au-delà de Bagrout. Et donc, ça veut dire que c'est le choix personnel de la fille. C'est pourquoi c'est permis. C'est une traduction. Il y a une autre traduction que Midata, c'est pour dire que même que le père, le gendre, il a demandé au père de chauffer sa fille. D'accord ? Et le père, il a parlé avec sa fille, il a encouragé de se marier avec cet homme. Ça marche. Ça ne s'appelle pas une ana'a. Pourtant, cet homme, il est moudar ana'a, il ne doit pas profiter du beau-père. Pourquoi ? Parce que la décision revient à la fille, c'est l'initiative de la fille. Ah, c'est vrai qu'il y a une motivation en amont qui vient du beau-père. Ça, c'est une ana du dibour, c'est accessoire, c'est rien du tout. Ça s'appelle pas une ana. Comme ça, il dit Tosfot. Le Rané dit le contraire. Et il travaille ce mot midata différemment. Mais en tout cas, on a déjà deux explications, c'est quoi midata. Ou bien midata, première explication du Rané, c'est que c'est la raison. C'est pas une condition. C'est la raison. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui décide. C'est plus lui le décideur. Donc c'est pas lui qui a fait une faveur au gendre. Ou bien, midata, c'est pour dire, même s'il a fallu la convaincre, et c'est venu du côté du beau-père qui a convaincu sa fille, c'est pas une ana, c'est permis. Ensuite, on a ce développement qui est terminé. C'était en rapport avec la Mishnah, comme on a vu au milieu du passage. Et donc, c'est pourquoi on a parlé de ce nouveau sujet. Maintenant, Amar Rabbi Yaakov, Amadir Beno le Talmud Torah, celui qui, par un vœu, interdit à son fils de lui profiter, que le père ne doit pas profiter de son fils, c'est ça l'objet du vœu, mais la vocation, c'est pour Talmud Torah de l'enfant. Il veut que son fils soit assidu à l'étude, et pas que son fils il s'occupe de faire le ménage, et les parents, et les courses, et tout, faire tous les petits services, et après l'enfant, il n'aura pas le temps de grandir en Torah. Le père, il préfère que son fils se consacre à ses études de Torah. Je te fais cadeau, je t'épargne de tout ce que tu aurais pu me faire comme service et je t'interdis même par un vœu. Donc maintenant, qu'est-ce que ça comporte ? Moutar le malotlo chavitch el maïm veladiklo et aner. Eh bien, malgré tout, le fils pourra faire des petits services tels que puiser de l'eau, allumer la bougie. Rabbi Tzrakama, aflitzlot lodag katan. Même de faire rôtir un petit poisson. Ça prend plus de temps que de puiser de l'eau ou d'allumer une bougie. En tout cas, c'est pour dire que des petits services que le fils veut faire à ses parents ne sont pas inclus dans le vœu. Parce que on va avec l'idée générale de ce vœu. C'est quoi l'idée générale ? C'est le père ne veut pas que le fils soit dérangé dans ses études. Alors, écoute, tu sais quoi ? Je ne peux plus profiter de toi. Il y a un vœu comme ça... Donc tu ne peux plus aller faire des gros trucs pour moi. Mais des petites choses comme ça qui se font vite fait, on estime qu'il n'a pas inclus ça dans le vœu, si bien que ça reste permis. Ou bien, d'après le Yerushalmi que cite le Ran, si c'est des choses qui sont un grand besoin pour les parents. Par exemple, le père, c'est quelqu'un de tellement noble, il n'est jamais allé faire les courses. C'est toujours un serviteur ou quelqu'un d'autre. Jamais, jamais il est allé. Non, il a besoin qu'on lui fasse les courses. Et le fils, il veut les faire, mais il y a un éder. Et il pourra. Parce qu'on estime que ça, il ne l'a pas inclus dans son vœu, puisque pour lui, c'est un besoin indispensable, etc. Ça, il ne l'a pas inclus dans le vœu. Le but, ce n'est pas qu'il se grille avec son fils. Ce n'était pas ça le but. C'était pour favoriser l'étude de son fils, qu'il soit versé dans son étude. Alors, je ne veux pas qu'au quotidien, tu déranges pour moi, hein, mais des choses qui sont ponctuelles, ou parce qu'il y a un grand besoin pour le père, ou parce que c'est une petite chose insignifiante vite fait, ça, je n'ai pas inclus nécessairement dans le vœu. Ça reste permis. Autre enseignement similaire. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yochanan, Amudar Ana Mechavero, Mutar Lashkoto Kos Shel Shalom. Celui qui a, avec un vœu interdit, le profit d'une autre personne, provenant d'une autre personne, eh bien, cette autre personne peut lui servir le verre de vin qu'on appelle le kos shel shalom. C'est quoi le kos shel shalom? Une coupe de vin kos shel shalom. Mainiou, c'est quoi ça? Hachatargimu, ici on a ici, c'est-à-dire à Bavel. À Bavel, on l'interprète comme ça. C'est kos shel bet ha'evel. C'est le verre qu'on sert dans la maison d'un endeuillé. Quand on fait Seudat Avraha auprès d'un endeuillé, ou bien même après les repas pendant les jours de deuil, ils avaient l'habitude, et c'est même institué dans la Gemara, dans Maseret Ketuvot, que de servir du vin à l'endeuillé, comme ça un pasuk qui dit Tenu Yahin la Oved, Veshechar le Mare Nefesh, donner vin à celui qui est Oved. Ok. Et Shechar, c'est l'alcool pour Mare Nefesh, les gens qui ont le cœur amer, c'est les endeuillés. C'est fait pour les remonter. Et donc, on boit avec eux, on les entoure, on est à leur côté. Et c'est comme ça que, d'une certaine manière, on essayait d'apaiser leur peine, etc. Et donc, ce kos s'appelle Shel Shalom. Parce que c'est dans les Darké Shalom que d'aller vers l'endeuillé, de l'entourer, de boire avec lui, etc. Alors, celui-là n'est pas inclus dans le vœu. Et donc, le moudar peut faire ce service, alors ce n'est pas lui qui paye le vin. Mais juste lui servir, le vin est à table, il ne fait que lui servir, c'est moutard. Ah, mais il ne doit pas profiter, il y a un éder. Ce petit quelque chose-là n'a pas été inclus dans le vœu, on le présume. C'est une situation délicate, le deuil. On estime qu'il n'a pas inclus ça dans le néder, que dans une situation aussi délicate, un petit service aussi mineur et ponctuel, qui ne se fait même pas, disent les Rishonim, pour consommation. Le but, ce n'est pas de consommer du vin. C'est très accessoire. On ne boit le vin que pour essayer de dépasser cette peine énorme qui terrasse la personne, etc. Alors, voilà, ce n'est pas inclus. On estime que ce n'est pas inclus dans le vœu. C'est permis. Ou encore, Bimarava Amré. Bimarava, c'est à l'ouest. L'ouest de Bavel, c'est donc Eret Israël. Là-bas, on traduisait Kos Shelbet Amerchatz. C'est le verre du Bet Amerchatz. Les gens allaient au bain de terme. À l'établissement de bain, il y avait plusieurs choses. Une des choses, il fallait transpirer. Donc on était dans le hammam pendant quelques moments pour transpirer. Après, il y avait aussi le bain d'eau chaude. Et ça réchauffait le corps. Mais ce n'est pas bon de réchauffer le corps que extérieurement, sans le réchauffer intérieurement. Donc ils avaient l'habitude, comme c'est recommandé dans une gemara ailleurs, de boire de l'eau chaude pour que ça réchauffe aussi intérieurement. Et c'est ce kos qu'on appelle kos shel shalom. C'est le kos du bien-être ou qui garantit qu'on se porte bien. Kanire, c'est pour ça qu'on l'a surnommé kos shel shalom. Mais c'est en fait ce kos conservé au Bet HaMerchatz, c'est pas du vin, c'est de l'eau chaude. Et le moudar peut servir ce verre, le madir peut servir au moudar. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, c'est pas un verre de consommation. C'est très accessoire, c'est ponctuel, c'est un petit geste insignifiant de rien du tout, etc. Tous ces aspects font que quoi? On estime que ça n'a pas été inclus dans mon vœu. Ça passe. Donc ça veut dire qu'un vœu, si les rachamim sont capables d'évaluer que tel petit service ne fait pas partie du vœu, eh bien on peut statuer que c'est moutard. C'est le sens de ces deux passages qu'on vient de voir. Ensuite, on a vu dans la Mishnah, « Loyazun et behemto » il ne doit pas nourrir l'animal du moudar. Ben Teora, Ben Temea. Et Rabbi Eliezer disait la Temea, oui, mais pas la Teora. Tanya, dans une braïta, Yoshua, Ish, Uza, Omer. Zanavada, Veshifroza, Vekenanim. Il peut nourrir les Avadim, Kenanim, de l'autre. Veloyazun, et Bemto, Ben Temea, Ben Teora. Baitama, quelle est la raison? Avada, Veshifrota, Vekenanim. Limnakirta, Avidan. Ils sont faits pour le travail. Tandis que Bema, l'Epituma, Avidan. Elle est faite pour l'engraissement. Que veut dire? L'animal, je peux considérer comme un profit quand tu viens nourrir. Parce que si tu viens nourrir, et surtout comme Loran a précisé, sur alimentation, qui a vocation à engraisser l'animal, c'est gagnant. L'animal, là, il a une valeur ajoutée maintenant. Selon Rahamim, cachère ou pas cachère, il a une valeur ajoutée. Selon Rabbi Eliezer, au moins quand il est cachère. Mais le Eved, c'est pas gagnant. Que tu l'as gâté, il a mangé, il a suralimenté, c'est pas gagnant. Lui, il est fait pour le travail. Menakiruta, c'est une version, plutôt que Manheruta. Et Menakiruta, ça veut dire il est là pour asticoter la maison. Il est là pour le travail, en d'autres termes. Et donc, pour le travail, c'est pas gagnant qu'il mange plus. Et c'est pourquoi, alors quoi, il va grossir, c'est pas le but. Il n'y a aucun profit. C'est pourquoi c'est permis. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Chazak Baruch. Et donc, le cours de Motzei Shabbat, je rappelle, vous l'avez...